Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Sébastien Guyot.
Allez, dernière ligne droite avec les grandes voix. Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta. Imaginez les deux hommes les plus puissants du monde, ou presque. À ma gauche, Joe Biden.
So you know Vladimir Putin, you think he's a killer?
Donc vous connaissez Vladimir Poutine, vous pensez que c'est un tueur?
Mm-hmm. I do.
Je le pense.
À ma droite, Vladimir Poutine.
C'est celui qui le dit qu'il l'est.
La réponse ironique du président russe à son homologue américain dernière, cette passe d'armes digne d'une cour d'école, de récré, les grandes voix. Est-ce qu'on entre dans une nouvelle guerre froide version 21e siècle, ou en tous les cas, est-ce que les relations se tendent dangereusement entre les deux pays?
Mais Biden, regardez les âges. Biden, il a été élu il y a 50 ans. C'est un élu démocrate, d'ailleurs du sud des États-Unis, dans une époque où les démocrates étaient plutôt... ségrégationniste d'ailleurs, on lui a reproché au moment de la dernière élection. Mais en tout cas, c'était c'est ce que j'appelle un guerrier de la guerre froide. Il a vécu toute sa vie politique dans une époque où le monde était, depuis 45, de 45 à 90, pour simplifier, ce demi-siècle, le monde était bipolaire, il y avait l'Amérique et il y avait l'URSS, tous les coups étaient permis, mais les Américains ont gagné, alors ils en ont perdu certains coups, ils ont perdu au Vietnam pas mal d'endroits, mais ils ont monté des coups dans un certain nombre de pays. La CIA était toute puissante. Regardez ce qui s'est passé au Chili et dans pas mal de pays d'Amérique centrale, d'Amérique latine, et puis en Afghanistan, etc. Il y a une nostalgie chez un certain nombre, pas tous les démocrates, mais en tout cas dans un certain nombre de têtes démocrates, il y a une nostalgie de cette période de la guerre froide avec l'URSS, où l'Amérique était quand même gagnante, globalement gagnante. Et là, c'est une erreur majeure de Biden de se mettre dans ce terrain-là, parce que la Russie d'aujourd'hui, bon, elle n'a plus grand-chose, même si c'est la Russie éternelle, pas grand-chose à voir avec l'URSS de l'époque Brejnev. Et de toute façon, le principal ennemi, ce n'est pas ça, c'est plutôt la Chine. Alors là, je trouve qu'il se trompe d'adversaire. Et alors, ça fait plaisir, effectivement, à tous les
tirs. Enfin, il n'est pas une déclaration, il répondait à une question.
Oui, mais enfin, bon, quand on est au niveau présidentiel, qu'on répond « oui, je le crois », il aurait pu dire, je ne sais pas, il aurait pu trouver un moyen d'éviter la réponse.
Vous savez ce qu'il avait dit à Poutine, les yeux dans les yeux.
Quand il était vice-président.
Quand il était vice-président, George Bush, avant lui, avait dit à Poutine « je regarde vos yeux, je vois votre âme ». Et lui a dit, Joe Biden, c'est énorme de dire ça à quelqu'un, je vous regarde dans les yeux et je vois que vous n'avez pas d'âme.
Mais écoutez, moi, je vous fiche mon billet que tout ça relève de la gesticulation. Et diplomatique.
Ouais.
Parce que vous allez voir les prochains rendez-vous, notamment les négociations sur les forces nucléaires intermédiaires entre la Russie et les États-Unis. Ni Biden, ni évidemment les Russes, d'où le flegme d'ailleurs de la réponse
de Vladimir Poutine.
Vladimir Poutine. Et aussi les New Start, l'autre grande négociation, l'Amérique, qui reste un énorme, le pays le plus puissant du monde, largement, a sorti, si vous voulez, parce qu'il y a deux sorties, il y a une sortie parallèle aussi, avec Anthony Blinken, le très francophone secrétaire d'État, qui est allé à Pékin pour dire aux Chinois, vous êtes en train de commettre un génocide à l'égard des Ouïghours, qui est une population de 11 millions de Chinois musulmans, turcmènes, et que tout ça relève de la diplomatie du mégaphone, comme disent les Chinois. Et c'est vrai, parce que de la même manière qu'ils ont attaqué aussi... Joe Biden a laissé filtrer le rapport de la CIA qui dénonce les agissements du prince héritier d'Arabie Saoudite, Salman, dans l'assassinat du journaliste Khashoggi. Croyez-vous que les États-Unis vont s'asseoir sur 200 milliards de dollars de contrats signés par l'Arabie Saoudite?
Donc gesticulation, le fait que l'ambassadeur russe à Washington soit rappelé, là une première depuis 1998.
Vous allez voir,
c'est la revanche contre Trump. Été accusé par les démocrates américains. Trump a été accusé d'avoir effectivement été élu grâce aux Russes. Et effectivement, Biden se venge. Il faut dire que le fils Biden a été lui-même mis en cause.
Non, mais on sent quand même que l'Amérique compte redevenir dans le monde occidental, face à la Chine et à la Russie, le chef de file, qu'il y a encore cette tentation américaine de vouloir organiser le monde occidental, d'être en quelque sorte le gendarme du monde occidental.
Oui.
Et c'est vrai.
Mais j'espère
que c'est la tentation des démocrates.
J'espère que l'Union européenne ne va pas se laisser embarquer par cette nouvelle diplomatie, notamment américaine, sur ce plan-là. Il est bien évident, depuis 2019, l'Europe a, si vous voulez, fixé une politique, une diplomatie internationale, qui est celle de considérer notamment la Chine comme un adversaire systémique, mais un partenaire économique.
Mais d'ailleurs, Charles, vous avez entendu l'Allemagne qui a réagi, qui a salué le langage très clair des États-Unis vis-à-vis de la Russie. Catherine Nen, en revanche, Emmanuel Macron n'a rien dit.
N'a rien dit, mais l'Allemagne, d'ailleurs, c'est curieux qu'elle ait, l'ambassadeur ait réagi comme ça, alors que l'Allemagne est en train de, complètement dépendante de la Russie pour le gaz russe et créer ce ce fameux gazoduc. Et certains Européens disaient que en raison de l'affaire Navalny, elle devait interrompre ses accords, ce qu'elle s'est bien gardée de faire et qu'elle ne fera pas. Et l'Italie aussi a tout à fait veut garder de très bonnes relations avec la Russie.
Mais l'Allemagne a une double attitude. Elle a une diplomatie économique.
Oui.
Ça passe par le gazoduc et effectivement
50% de son gaz va venir de toute façon de Russie.
Et à côté de cette diplomatie économique, elle a une diplomatie en apparence tiers-mondiste, un peu comme la nôtre,
les
droits de l'homme
sont
à travers
en
le
deux.
Monde, oui. C'est du blabla.
Tous les pays sont coupés en deux, parce que l'Amérique a besoin du commerce chinois. Si la moitié des objets qui arrivent en Amérique sont chinois.
L'Allemagne a besoin du parapluie nucléaire et de défense américaine.
Non, mais il faut bien voir.
Donc les deux, tout le temps, les pays sont coupés en deux, entre l'envie d'attaquer la Russie et... ou la Chine, et puis il a profité.
Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus dans la politique de De Gaulle de l'Atlantique à l'Oural, et aujourd'hui, on voit bien que les Russes, ils se sentent à part, ils sont différents des Européens, parce que rejetés par eux, à cause des sanctions, mais ce n'est pas non plus une puissance asiatique. Et donc, s'il y a quelque chose qui doit réunir les Européens et la Russie, c'est la peur des Chinois. Parce que la menace chinoise, elle est et pour les Européens et pour la Russie.
On s'arrêtera là. On est sorti de la cour d'école et de la cour de récré grâce à vous, les grandes voix, les quatre fantastiques qui ont mis un peu de hauteur dans ce débat. Merci à vous. Je vous rappelle que l'émission est à réécouter en podcast sur europe1.fr. Merci à Jean-Luc Arblade à la réalisation, à Capucine Patouillet à la préparation de cette émission. Tout de suite, c'est bien entendu la table des bons vivants avec vous, mon cher Laurent Mariotte. Quel est le programme ?
Bonjour Sébastien et bonjour les grandes voix. Alors on va changer de sujet, venez à la maison, il y a le printemps qui chante, on va le fêter et le cuisiner. Manger local est une tendance de plus en plus suivie par les Français. Eh bien on va débattre sur les limites d'un monde locavore et on va partager un plat du jour avec la belle cuisinière Perla Servan-Schreiber. Voilà, à tout de suite.
À tout de suite.
Europe 1.